suis l'administrateur de l'établissement de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Albert Poirot. Donc, nous vous recevons avec Pierre-Louis, qui, près de moi, est chargé de mission pour le projet Guerrier ouvert, et quelques collègues de la communication externe, vous avez vu Mme Débarras et André Kman, et puis aussi, est présent et répondra à des questions éventuellement si je suis incompétent, pour répondre à certaines des questions que vous poseriez sur le plan architectural, technique ou autre. Donc, Gilles Caron, qui est ingénieur, directeur des constructions du patrimoine au rectorat. Vous savez que c'est le rectorat qui, au nom de l'État, assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération. L'opération des nuits nouvelles. Donc, on a les architectes, donc c'est l'équipe Nicolas Michelin et associés. Bonjour. Et donc, on a donc la, avec cette équipe-là d'architectes, il y a les architectes, l'architecte en chef du monument historique, qui s'appelle Christophe Bottineau, qui traite la partie du monument historique, puisque le bâtiment est la partie du monument historique. Ça, c'est la maîtrise d'œuvre. Et donc avec des ouvrages assurés par le rectorat. Voilà donc bienvenue à vous tous, membres du club de la presse. Donc on va ici vous présenter le projet pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, avant d'aller sur le chantier, où là vous serez équipé de casques, parce que ce n'est pas une visite trop dangereuse à laquelle on vous invite, mais quand même. Il faudra faire attention, vraiment faire attention à ouvrir les pieds. Hein. C'est plutôt la tête à protéger par le casque, mais les pieds, il y a des trucs, des câbles, comme vous pouvez mettre une maquette sur un chantier. Donc, vous allez être à la prudence. Donc, un dossier vous a été remis. Dans ce dossier, j'appuie spécialement pour encore d'aujourd'hui. Faites votre attention sur ce document. Qui présente l'opération. Alors, à peu près, à mi-parcours de l'opération. Mi-parcours de l'opération, puisque l'opération a commencé par l'achat et la rénovation d'un troisième bâtiment de la BNU. Donc, troisième, ça signifie le premier, 1895, le bâtiment République, auquel on va aller. Deuxième bâtiment, le bâtiment Joffre, que la BNU a acquis dans les années 1970. Donc, troisième bâtiment qui peut partir de l'opération de BNU nouvelle, aussi l'accroissement notamment des capacités de stockage pour les collections. Et c'est donc le FICHA, c'est un bâtiment que l'État a acheté au département, qui est l'ancienne partie de l'archive départementale. Donc, ces trois bâtiments, donc FICHA, les travaux à FICHA, sont déroulés en 2010. Le bâtiment République a été fermé au public en octobre 2010. Les travaux, donc il y a eu des déménagements, bien sûr, je viens de le faire si on a le temps. Et donc les travaux ont vraiment commencé en dur, de façon effective, en janvier 2011. Et là, avec donc printemps, c'est aujourd'hui printemps 2013, alors que le chantier est réputé être terminé en termes de bâtiment en janvier, fin janvier 2013, c'est 2014, c'est toujours la bonne date. 6 mois de réinstallation des collections, des circuits informatiques, tout ce qu'il faut imaginer. Et donc, on pense rouvrir le bâtiment République en septembre-octobre 2014, soit pour la rentrée universitaire. On a donc le calendrier. Alors, j'insiste là-dessus, donc le bâtiment République est fermé au public pour travaux, mais la BNU, elle, n'est pas fermée. C'est-à-dire que nous avons, grâce à la diligence, je le redis pour encore le saluer, grâce à la diligence du rectorat de Strasbourg et de M. Caron en particulier, donc nous avons trouvé un local de stockage pour 31 km de collection à Einstein, à l'aéroport. Et donc, tous les jours, on fait une navette entre Einstein et les bâtiments Joffre, le bâtiment Fichard. Un lecteur demande un livre à 9h du matin, il est à Einstein, à 14h, il l'a à sa table de travail où il l'attend si c'est un ouvrage qui va être emprunté à domicile. Donc c'est un système, de label qui a été mis en place. Nous ne voulions surtout pas pénaliser la recherche en sciences humaines et sociales à cause du chantier, surtout la période qui avait suivi la fusion des trois universités strasbourgeoises, parce que une seule université, et là, effectivement, la BNU joue un rôle majeur pour les étudiants, les enseignants-chercheurs, et donc il n'était pas question pour nous, évidemment, de mettre les livres en carton et d'interdire l'accès. Alors, petite parenthèse sur le public de la BNU. Traditionnellement, deux tiers du public est composé, relève de la communauté universitaire, et un tiers n'appartient pas à la communauté universitaire. C'est une spécificité, une des particularités de l'établissement en tant que bibliothèque universitaire, d'avoir 33% du public qui n'est pas universitaire. C'est une des particularités de notre établissement, en dehors du fait que c'est une bibliothèque nationale, qui dépend directement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y en a d'autres, liés à son histoire. Vous savez que c'est un établissement qui a été fondé en 1871, un petit peu sur le décompte, évidemment, de 1870, et donc on a reconstruit une bibliothèque intégralement à partir de 1871, et on a institué bibliothèque impériale à l'époque, du Land et l'université et du Land. Et donc, c'est une des particularités, c'est qu'il y a ce double ancrage universitaire et territorial, avec en plus la dimension nationale, qui bien sûr des responsabilités au plan international. Donc, parmi les autres particularités de l'établissement, il y a l'importance des fonds, puisque c'est la deuxième bibliothèque de France derrière la BNF à Paris. Et c'est donc la première bibliothèque d'enseignement supérieur. Mais on n'en terminerait pas des superlatifs et des comparaisons, notamment sur le chantier. On a dit que c'était le plus grand chantier de l'État en région Alsace ou à Strasbourg. Je sais qu'est-ce qu'on a dit.
Oui, c'était ça.
Voilà. Donc c'est pour dire l'ampleur de ce chantier. Alors, le chantier, il a démarré en fait pour des raisons de mise en sécurité du bâtiment. En cas d'incendie, on avait 10 minutes pour se sauver. Pas une minute de plus, disaient les services de sécurité, donc il était impropre à une utilisation normale. Et donc on a pu, à l'intérieur, vous le constaterez en creux, si j'ose dire, puisque tous les planchers, à quelques exceptions près, ont été supprimés, et donc on a été obligé de refaire l'architecture à l'intérieur. C'est un grand projet d'architecture, parce que à l'intérieur, rien n'a subsisté du dispositif précédent, mais ça, Pierre-Louis, je vous montrerai quelques photos, je pense, qui sont assez parlantes de la situation en Montpellier. Donc, vous avez ici, donc on est parti de cette question de sécurité, et bien sûr, on a ajouté du quantitatif, donc plus de possibilités pour l'accroissement des collections. Aujourd'hui, la BNU possède, en kilomètres linéaires, on possède 38 kilomètres linéaires. À terme, on en possédera, donc il y aura possibilité de croissance jusqu'à 81 km linéaires. Donc plus de dates de lecture, plus de livres en libre accès. Il y avait jusque-là un sentiment qu'on pourrait qualifier d'un petit peu dépassé dans la mesure où les lecteurs n'avaient accès directement qu'à des usuels. Là, les lecteurs vont pouvoir emprunter directement les ouvrages sur les rayonnages. On aura à peu près en tout, on passera de 30 000 livres en libre accès à 160, quelque chose, 130 000 livres en anglais, à quelques milliers près. Donc voilà un petit peu, ça c'est sur du quantitatif. Il y a aussi du qualitatif, donc de meilleures conditions de conservation du patrimoine, les conditions antérieures n'étaient pas bonnes. Une mise en valeur du patrimoine à travers des outils d'action culturelle, comme ça d'exposition de 500 mètres carrés, on verra les espaces tout à l'heure, un auditorium de 146 places. On vous donnera des détails d'ailleurs. Donc, ça, c'est les objectifs du chantier. Et puis, pendant ce temps-là, bien sûr, non seulement l'établissement continue à fonctionner en faveur du public, donc le système de prêt, il y a deux petites salles de lecture, une ici, une affichable, 20 places chacune, où les lecteurs consultent les documents qui sont en matériel de domicile, autrement dit, les ouvrages des fonds patrimoniaux. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, donc on continue ce service public, mais aussi on a des chantiers à terme. Par exemple, la constitution d'une grande bibliothèque numérique qui est déjà baptisée, qui s'appelle Numistral, qui ouvrira en septembre 2013 et qui a donné lieu à une convention de partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Bon. Vous n'êtes pas venu ici, vous êtes venu ici pour voir le chantier, donc je ne développerai pas ces sujets, mais ce sont des sujets qui, pour nous, sont importants, parce que des vues nouvelles, c'est non seulement un contenu appartenant avec le bâtiment, mais ce sont aussi des contenus, et il y a troisièmement un chantier institutionnel, puisque vous savez, le ministère de l'Enseignement, vous savez pas, pour les spécialistes qui sachent ça, le ministère de l'Enseignement supérieur veut développer des politiques aussi. Et donc, on travaille sur un chantier institutionnel en relation avec l'Université de Strasbourg, l'Université de Haute-Alsace et l'INSA pour développer un projet pour l'enseignement supérieur et la recherche en Alsace actuellement. Donc, il y a les trois chantiers, le chantier de bâtiment, le chantier intellectuel et le chantier institutionnel qu'on mène de voilà. Donc, c'est les 10 chantiers dans le chantier qui sont répertoriés aussi sur le dépliant. En quelques mots du financement, le projet sur Fichart et République, on ne parlera pas de l'offre aujourd'hui, représente un projet de 61 millions d'euros, dont les deux tiers assurés par l'État, le ministère de l'Enseignement supérieur, et un tiers par les collectivités territoriales. Donc, à part égale entre la région, le département du Bas-Rhin et la communauté urbaine de la région. À ces 61 millions d'euros, se sont ajoutés des crédits pour la rénovation, le nettoyage et, pour une partie, la restauration des façades, notamment la façade ouest du bâtiment, celle qui donne sur la place de la République. Et puis, il y a eu quelques compléments financiers. En gros, si vous voulez, le chantier devrait représenter près à terme de 65 millions d'euros si les choses vont comme nous pouvons le souhaiter. Voilà en gros les quelques éléments. Alors là-dessus, il y a des choses qui, dans ce que j'ai dit, peuvent ne pas être claires. Vous n'hésitez pas à me poser des questions tout de suite. Étant entendu, pendant toute la séance, vous pourrez poser aussi des questions. Éventuellement, une fois que Pierre aura parlé. Donc déjà, s'il y a des choses qui ne sont pas complètement claires et évidentes pour vous, qui se peuvent concevoir, n'hésitez pas. Pour le moment, ça va. Si.
Est-ce qu'il y a des crédits européens aussi?
Non, pas du tout. Ce sont uniquement des crédits. Pour le moment, ce sont uniquement des crédits. Non, il y a des crédits. Alors, on parle du chantier architectural. Sur le chantier construction de la bibliothèque numérique, on a des crédits européens. La Commission européenne, en particulier, on numérise des fonds pour la guerre de 14-18, et là, on est financé en moitié par l'Europe.
Est-ce que le projet a des développements au niveau transfrontalier allemand, parce qu'on a parlé de l'histoire de cette bibliothèque qui est connue à travers l'histoire du pays.
Oui.
Est-ce qu'il y a, au cours dans vos développements, des développements qui sont transfrontaliers?
Oui, d'une part, sur le chantier architectural, je veux dire, ce qui est notable, c'est que les Allemands, les Allemands, s'intéressent au projet, puisque quand même, ça a été au départ une fondation de l'Empire. Donc, par exemple, on est sollicité. J'ai deux collègues qui sont intervenus la semaine dernière à un congrès en Allemagne, à Leipzig par exemple, donc il y a un intérêt très très fort qui est porté sur le devenir de l'établissement. Au-delà du bâtiment lui-même, il y a des projets transfrontaliers avec, alors, d'une part dans le cadre du port, mais aussi au plan général, et on a beaucoup de partenariats, notamment ce que je viens de dire par exemple, c'est la Stadtbibliothèque à Berlin, qui avait lancé l'idée, qui nous avait sollicité. Et donc, c'est un projet, par définition, qui est un financement européen, c'est un projet européen, et donc c'est une qualité de bibliothèque nationale qui nous permet de nous associer à ce type d'opération. Donc effectivement, à travers l'architecture numérique, si vous voulez, il y a en France, dans Robiana, dans tout ce système-là, et les partenariats avec l'Allemagne sont très très forts. Pour nous, ils sont quotidiens. Je veux dire, j'ai encore découvert un message, on reçoit des propositions de partenariat depuis l'Allemagne en permanence. On est vraiment. Les fonds, déjà, les fonds sont en 1918, la troisième bibliothèque de l'Allemagne. Et donc, les fonds, ils étaient à l'époque 60% allemands. Et donc, on ne peut pas travailler sur ces fonds sans travailler en partenariat avec les bibliothèques allemandes. On a par exemple, pour vous donner une idée, d'ailleurs, on rentre vraiment dans des questions d'action culturelle, d'exposition des arts et patrimoines. On a l'exposition Wagner. On va monter à Bellevue en juillet, qui sera monté à la Ambassade de France à Berlin, qui sera ensuite monté à Stuttgart. On travaille, on a fait une exposition sur l'Europe, sur les affiches européennes, qui a été présentée à Karlsruhe, qui est actuellement l'Université du Mans, qui sera présentée à Stuttgart. Je dirais en permanence, hein, ce genre de projet, c'est vraiment notre quotidien. Il suffit qu'on pense avec les fêtes pour que je vois effectivement les propositions. Et en plus, le fait, c'est que. Les propositions viennent toutes seules, les sollicitations viennent toutes seules. On n'a pas, c'est quelque chose complètement naturel, complètement intégré. De même que pour les expositions, alors ça je sors de votre question, pardonnez-moi, pour les expositions, on a des sollicitations pour les expositions jusqu'en 2017. Alors, par exemple, donc on n'est pas de ce côté-ci, on n'est pas au chômage, hein, on se sent mobilisable et pardon, mais complétez votre question.
Oui, est-ce qu'il y a une dimension européenne à travers Bruxelles et le 7e PCR?
Alors, dimension européenne, oui, ne serait-ce que parce que nous avons en dépôt la bibliothèque du central du Conseil de l'Europe, hein, par exemple, et cette dimension va s'affirmer, et les travaux qui sont pour nous aider à nous affirmer au plan européen, certainement.
Il
y a deux bibliothèques, le statut de bibliothèque nationale, donc la Bibliothèque nationale de France, qui dépend du ministère de la Culture et de la Communication, et donc la BNU de Strasbourg. Qui dépend d'enseignement supérieur.
Est-ce qu'il y a eu des propositions de fonds privés pour soutenir le chantier?
Financiers,
oui.
Non. Là, alors pour le coup, c'est une grande différence avec l'Allemagne, par exemple, les pays anglo-saxons, le mécénat en France.
Mais est-ce que c'est une volonté de la bibliothèque ou est-ce que c'est de l'autre côté?
Non.
Ils auraient pris s'il y avait eu.
je pourrais citer aussi d'autres projets ou d'autres réalisations qui n'avaient pas été, c'est un réseau qui est actif. Hein. Alors, ça ne nous empêche pas d'avoir d'autres partenariats. En fait, on a un partenariat privilégié, nous, avec Stuttgart, par exemple, avec la gérante des bibliothèques à Stuttgart, où on a des échanges de personnel, on a des échanges de position, on travaille beaucoup avec Stuttgart au-delà de corps, toujours dans la personne.
Au cadre de la HPTP, je rebondis sur la question des partenariats privés. Dans le cadre de la HPTP et des coûts de rabot budgétaires, comment vous avez réussi à défendre, j'allais dire, les crédits de votre établissement? Quels ont été les leviers pour vous?
Quels ont été les leviers pour moi en termes de défense? Ça a été une question qui est tellement vaste, qui est tellement du quotidien, hein, comme il est certain que le caractère national de l'établissement est prédominant. Il y avait une responsabilité de l'État vis-à-vis de cette bibliothèque. La bibliothèque a été donc construite en 1895. Il y a eu une première restructuration, il y avait eu un bombardement. La bibliothèque a souffert en 1944, hein, je crois. Et donc, avec les crédits de mal de guerre, il y avait une récupération dans les années 50. Et depuis 50, il n'y avait pas eu quelque chose, à part l'annexion de ce bâtiment-là, si vous voulez, il n'y avait pas eu de grand. Donc, il y avait une responsabilité, et les collectivités territoriales, insistaient auprès de l'État pour que l'État investisse dans cette bibliothèque, alors que la SAF avait en 1970 tellement souffert de la destruction du patrimoine écrit qu'on ne voulait pas. Quand on disait qu'on avait 10 minutes pour se sauver, c'était 10 minutes pour sauver les humains. Les collections restaient. Bien entendu, donc, on ne pouvait pas admettre cette idée qu'il puisse y avoir une deuxième destruction massive du patrimoine écrit à la fin. Donc, il y a eu cette discussion entre l'État et les étudiants. Le fait aussi, si vous voulez, que l'établissement, on est sur la place de la République et que le bâtiment lui-même a un sens pour tout le monde, et ça a été un facteur important. D'autre part, bon, dans des systèmes de réseau que vous pouvez imaginer, l'État a aussi considéré, au-delà de ses responsabilités propres, on revient à la question précédente, que Strasbourg avait une place particulière vis-à-vis de l'Allemagne et de l'Europe de l'Est. Et que cette mission-là, ce rôle-là de la BNU, devait être supporté. Voilà. Mais pour dire les choses de façon autre, l'établissement donc fonctionne, comme vous savez, avec des titulaires, donc la titulaire et des contractuels. En 30 ans, il y a eu une seule création d'emplois pour la BNU, et donc ce qui pose bien sûr problème. Donc on a recruté des contractuels, mais ce n'est pas un système qui est forcément idéal pour les gens. Vous savez que l'instancement supérieur sur la mandature actuelle a prévu de créer 5 000 emplois. Et donc, je m'emploie à récupérer un certain nombre de ces emplois dans la mesure où c'est une bibliothèque universitaire, c'est capital pour la réussite étudiante. Notamment une bibliothèque qui, traditionnellement comme la BNU, est ouverte jusqu'à 22h le soir. On était ouvert du lundi au samedi jusqu'à 22h le soir. C'était donc quelque chose qui était pour les étudiants quelque chose de central pour le régime. D'autre part, le ministère voulait aussi mettre l'accent sur les plans de la recherche en sciences humaines et sociales. Et nous, on est d'abord une bibliothèque en sciences humaines et sociales, une bibliothèque nationale en sciences humaines et sociales. Et donc, ce deuxième facteur entre en ligne de compte, bien sûr, dans les négociations avec l'État. Je parlais de la politique de site tout à l'heure. On est en train de négocier les moyens pour le fonctionnement futur de l'établissement. De plus, il y a eu des évaluations. des évaluations soit de ce qu'on appelle la ERES, l'Agence pour l'évaluation de la recherche en sciences supérieures, qui a bien montré qu'il y avait un problème, qu'on n'allait pas pouvoir ouvrir avec les moyens qu'il y a 10 ans. On a eu, bien sûr, un rapport de la Chambre régionale des comptes, on a eu, je demandais une mission d'expertise financière au ministère, enfin, j'ai fait ce que je peux faire au quotidien pour, effectivement, attirer l'attention des autorités de l'État sur la situation propre de l'établissement. Et ce qui m'a, bien sûr, aidé, je parlais de l'évaluation de la RES, il y avait un expert de la RES qui avait calculé, il savait d'expérience que pour le fonctionnement, il fallait prévoir 13% de l'investissement. Donc moi, je prends ma règle 3 à partir de là, qui est objectif, on est aujourd'hui, on fonctionne avec un budget de 8 millions, enfin ça dépend, parce qu'il y a eu des travaux, enfin voilà. En gros, en régime de croisière, un budget de 8 100 000, le salaire des fonctionnaires y compris, et l'objectif cible, c'est 9 750 000 sur la base de la règle de 3, 13%. Quand je réalise, quand je calcule autrement, c'est à partir des services de prestation, quand on fait la même somme, donc elle est logique, et donc c'est avec ce type d'argument, en fait, vous me demandez, excusez-moi, c'est la cuisine interne, c'est l'explication que je vous donne, mais c'est sur la base de ce type de réponse. Mais ça ne se ferait pas, je veux dire, si ce n'était pas un bâtiment, n'était pas place de la République, s'il n'était pas arrivé à avoir des développements avec l'action culturelle, avec l'auditorium, c'est des choses, c'est tout projet qui porte ça. Ça se fera. C'est pas une bibliothèque. Tout le monde reconnaît l'identité particulière de la bibliothèque dans le paysage alsacien. Et je crois que c'est ça qui, en fait, nous sert.
Est-ce que l'UNESCO s'est mêlé de la question? Est-ce que Strasbourg, c'est la grande ville, la patrimoine?
Non, alors l'UNESCO ne s'est pas mêlé de la question, mais nous sommes mêlés de la question de l'UNESCO, dans la mesure où on a, parce que ça aussi c'est une réponse à la question précédente, où pour la restauration des façades, donc on a eu 1 600 000 en plus, l'argument, le fait que la ville de Strasbourg veuille que le quartier ici où nous sommes soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça nous a servi pour obtenir des crédits. On invite l'État ne pouvait qu'accompagner ce processus, et donc ça nous a facilité l'obtention des crédits pour la restauration de l'UNESCO, qui n'était pas dans le programme initial. La restauration extérieure, c'est pour ça que ça s'ajoute aux 61 millions, ce n'était pas dans le programme initial. Et donc moi, j'ai voulu mettre l'accent sur le patrimoine bâti comme sur le patrimoine écrit et des collections.
Ah, je voudrais revenir sur un point et peut-être une question philosophique délicate. Y a-t-il une. C'est une infrastructure de recherche nationale. Est-il envisagé de coordonner les bibliothèques qui constituent des infrastructures lourdes de recherche, dans le cadre du programme ESRI par exemple, ou reste-t-on en compétition entre des centres comme Cambridge, Oxford ou les grandes universités allemandes?
La compétition existe, ça c'est naturel, enfin je veux dire, et c'est un enjeu mondial que Strasbourg, en tant que site universitaire, effectivement, puisse se prévaloir. Alors après, on entre dans les systèmes de classement internationaux, j'en citerai aucun, on en parle beaucoup, on les critique en même temps, donc je ne vais pas me lancer là-dedans, mais de toute façon la compétition existe. Ça n'empêche pas que de toute façon, ce que nous faisons au quotidien avec les bibliothèques numériques, on est en train de faire une grande bibliothèque mondiale, exploitable par tout un chacun. Je veux dire, et là, tous les chercheurs, on ne va pas, si vous voulez, on ne va pas réserver nos collections numérisées ou pas à une pratique locale. Je veux dire, c'est une bibliothèque, toute bibliothèque, encore plus celle-là que d'autres, à vocation à l'universel et à l'ouverture sur le monde. Et donc on a pris des décisions ici importantes. Nous avons été la première bibliothèque à le faire, et la Bibliothèque nationale de France me demande comment on a fait, etc. Mais c'est tout ça en même temps. Il n'y a pas d'autre réponse. à dire on a donné la libre utilisation de nos fonds dès lors qu'ils sont dans le domaine public. Hein, je ne parle pas des droits d'auteur et autres, qui ne nous appartiennent pas. C'est un dernier droit qu'on n'a pas nous-mêmes. Mais tous les fonds qu'on numérise, ils sont exploitables librement. C'est-à-dire qu'on n'a aucun contrôle sur ce que l'utilisation qui est faite, le type de document que l'on met sur notre site web ou sur la ferme de bibliothèque numérique. C'est une volonté premièrement de déverrouiller les systèmes. C'était une volonté de faciliter l'exploitation de nos fonds. C'était une volonté de faciliter au quotidien la recherche, dans la mesure où on imagine un thésard qui, en histoire de l'art, doit utiliser une quarantaine de nos gravures, par exemple, le régime précédent, les 35 euros multipliés par etc. Donc là, ce n'est plus du tout le cas. Il repère dans nos collections un document qui est déjà numérisé, il le prend. On lui demande de citer, c'est normal, en termes de recherche, on cite sa source, c'est tout, et c'est libre. Donc, et c'est ouvert pour le monde entier. L'idéal pour moi, c'est que tous les éditeurs puissent utiliser nos fonds, ça valorise mes fonds, ça fait le boulot que moi je ne peux pas faire parce que je ne suis pas, nous ne sommes pas assez nombreux, et donc ça fait partie d'ensemble de ces processus de la diffusion de la connaissance. Je ne sais pas, je répondais à votre question, à la moitié.
À moitié, mais pour être plus technique.
Et là, sur la concurrence, oui, ça existe forcément sur la concurrence.
Je pensais à un financement européen pour la maintenance des infrastructures, comme fait penser dans le cadre du CNRS pour la numérisation de certains fonds et ainsi de suite.
Oui, mais ça, la concurrence est aussi, ça existe. Merci.